Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Pagnol 2. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Pagnol, auteur de théâtre, écrivain, producteur, réalisateur, scénariste. Et dans la première partie de l'émission, on a vu l'importance des pièces de théâtre et la manière dont certains auteurs avaient repris aussi les livres et les avaient adaptés, Claude Berry en 86 et Yves Robert en 90. Donc Pagnol, lorsqu'il tourne, c'est une troupe. Une troupe, il y a toujours eu des troupes de théâtre dont on avait les mêmes personnes qui revenaient dans les mêmes emplois. Parmi les plus anciennes, bien sûr, il y a la troupe de Molière qui s'est illustrée au théâtre. On pourrait penser d'ailleurs que si le cinéma existait à l'époque, Molière aurait fait du cinéma. Alors, dans les troupes, il y a des grands acteurs, des seconds rôles, quelle que soit l'époque. Aujourd'hui, pour faire une analyse de films récents, ou un petit peu plus anciens, vous avez les Marvel, Iron Man, Avengers, Captain America, Spider-Man, Thor, Black Panther, et aussi les X-Men ou les autres gardiens de la galaxie. Donc films qui sont tout à fait intéressants, mais souvent pour les plus jeunes et les plus anciens, ils trouvent moins leur compte. Alors pour évoquer la troupe, bien sûr, il y a les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche, c'est Rému. Donc Rému qui a joué dans Marius, Fanny, César, qui a joué dans La femme du boulanger, qui a joué dans La fille du puisatier. Donc un des rôles importants, le premier rôle principal pour Pagnol. Il y a aussi Fernandel. Fernandel qui était connu à l'époque plutôt pour du comique troupier ou du comique un petit peu gras, qui n'était pas toujours vraiment très très fin. Et s'il n'y avait pas eu Pagnol, Fernandel n'aurait pas été aussi bon et n'aurait pas laissé une trace aussi importante. Dans les films de Pagnol, notamment Angèle et la fille du puisatier, mais il y a aussi Naïs qui est un petit peu moins connu. Il a des rôles exceptionnels. Il fait passer une émotion, une sensibilité, tout en conservant un petit peu d'humour. Donc, Fernandel vraiment très important. Vous avez parmi les premiers seconds rôles, vous avez Charpin. Alors, Charpin, c'est celui qui joue Panis dans Marius Fanny César. C'est celui qui va épouser Fanny. Et l'extrait qu'on a écouté l'autre jour dans Pagnol 1, c'était le retour de l'enterrement de Charpin, de Panis, où Rému s'interrogeait, est-ce que Dieu est vraiment Dieu ? Et après, il y a les acteurs moins connus, certains qui ont joué ailleurs, comme Blavette. Il y a aussi Robert Wattier, qui est le Monsieur Brun universel, si je puis dire, qu'on a écouté tout à l'heure. Maupi, Henri Poupon, qui fait toujours les méchants, Raymond Pellegrin, et Édouard Delmont. Édouard Delmont, qui est un acteur extraordinaire, qui a joué chez Pagnol, mais aussi ailleurs. Il a joué, par exemple, dans La Marseillaise, où il fait un rôle assez impressionnant, et dans Tony. Et il est le seul à jouer deux rôles différents dans la trilogie. Marius, Fanny, il a un rôle différent. Il va jouer dans Geoffroy, Angèle, César, Regain, La femme du boulanger, Manon des sources, dont un acteur qui est vraiment constant chez Pagnol. Alors Panis, qui est joué par Charpin, Charpin interprète aussi d'autres rôles, notamment dans le Spunz. Alors le Spunz, avant d'écouter deux extraits, il faut rappeler que le Spunz, en fait, c'est quelqu'un qui se prend pour un bon acteur, alors qu'il est complètement nul. Donc le Spunz, le sujet, c'est Fernandel, qui est un petit peu gentil ou brave ou simplé, comme souvent dans les films de Pagnol, et qui se fait manipuler par une équipe de cinéma qui lui dit « Vous êtes le Spunz, il faut venir à Paris, vous êtes extraordinaire », et qui se moque de lui. Et en réalité, il appartient à une famille d'épiciers, il ne supporte plus ça. Alors les deux extraits qu'on va entendre, c'est le tout début de ce film, Et dans le Schpoutz, donc, il y a Panis, enfin plutôt Charpin, qui discute avec ses neveux, notamment Fernandel, qu'il a recueilli de son frère et dont il montre combien ils abusent de lui. Et l'autre extrait, c'est les membres de l'équipe qui se moquent de Fernandel, qui disent « tu es le Schpoutz ». Et lui va présenter différentes façons de dire « toute condamnée à mort aura la tête tranchée ». Donc voici les deux extraits.
C'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien.
En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi.
Moi, j'étais à la messe. Je sais que c'est pas moi non plus.
Alors, qui est-ce ?
C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole.
Tu as pris, toi, des croissants ?
Ah, naturellement, j'avais pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir.
Ça, non.
Pourquoi ça, non ?
Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui.
Tu l'as déjà dit bien souvent, ça, monsieur.
Et ça n'a jamais servi à rien.
Mais alors à quoi ça sert que tu me le redis ?
Je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre et qu'un grand galavard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle, qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament.
Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien.
Oh, que non ! Bon à rien, mais ce serait encore pire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
Je te saisis, je suis profondément blessé.
Voilà. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril.
Il est aveugle, M. Carbonnière ?
Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques.
Voilà, voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui.
Lui ? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours. Jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui. Pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerai plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé de seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie. Tranchée. Adieu, Graziani.
Oh, il est...
Le Schpoutz. Le Schpoutz. C'est lui ?
Bien sûr !
Mais qu'est-ce que c'est que le Schpoutz ?
Oh.
Hein ? Le Schpoutz, monsieur. Le Schpoutz, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner.
Ah, aucun.
Ah, aucun. On a essayé toutes les plus grandes vedettes.
Toutes.
Tous les plus grands noms de l'écran, aucun n'a pu l'incarner. C'est Greta Garbo en homme, vous vous rendez compte ?
Monsieur, vous m'effrayez un peu.
Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un Schpoutz, mais à l'écran...
Il serait encore beaucoup plus Schpoutz.
Oh, ça, c'est à voir.
Oh non, ça, mes enfants, moi, je donne mon avis, n'est-ce pas ? Ça, il est bien évident que ce serait subordonné à des essais.
Bon, ben, on peut se tromper, moi.
Ah oui, mais alors, ces essais qui sont la base de tout, quand les fait-on ?
Ben, moi, je peux tout de suite faire un essai de son, si vous voulez.
Est-ce que vous savez quelque chose par cœur ? Un poème, une chanson.
Oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant.
Oh, mais c'est qu'il est très intéressant.
Laisse-le donc parler.
Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Oh, c'est pas gay, ça.
Non, c'est pas gay, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression.
Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression?
Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est vrai?
Oui, oui, absolument.
Eh bien alors, je commence.
Voilà.
La crainte.
Le premier long métrage tourné par Pagnol, c'est en 1934, Angèle. Angèle, il y a un thème qui revient constamment dans l'œuvre de Pagnol. On a cherché parfois si cela reflétait un inconscient. C'est l'enfant naturel. L'enfant voulu ou l'enfant pas voulu, mais qui soulève des difficultés dans la famille. Surtout à cette époque où il y avait un recul, un rejet par rapport à ces situations. Alors Angèle, donc, c'est une jeune femme qui est dans une ferme et qui va partir à la ville séduite par un homme qui en réalité est un proxénète. Donc elle devient prostituée, elle a un enfant et Fernandel joue un valet de ferme là, pour le moins simplé, mais qui va chercher Angèle à la ville et la ramène à la ferme. Son père n'en veut pas, il la cache dans la cave pendant très longtemps. Et il y a finalement un jeune homme qui va vouloir la séduire et passer par l'intermédiaire d'un paysan plus âgé qui est joué par Édouard Delmont dont je parlais tout à l'heure. Et là, il y a vraiment du néoréalisme. C'est le monde paysan, c'est rude, c'est violent. Et Pagnol était fier d'un travelling qu'il avait fait à l'époque. Il suivait les personnages sur une très longue, sur un très long espace. Et il avait été vraiment très très heureux de mettre en place ce plan qui était original. Alors il a tourné aussi quelques films de moyen métrage comme Geoffroy antérieurement qui se passe aussi à la campagne. Mais dans le cinéma, ce qu'il va surtout présenter à deux reprises, c'est Topaz. Alors Topaz, c'est en 1936 avec l'acteur qui s'appelle Arnaudi et ce sera plus tard avec Fernandel. Alors, le thème de Topaz est vraiment extrêmement critique, c'est la corruption. Donc, on a un instituteur qui est dans sa classe, qui fait la classe le mieux possible, qui est très gentil, qui est dévoué et qui est méprisé par le chef d'établissement et sa fille. Il est fasciné par sa fille, qu'il voudrait bien épouser, mais il est rejeté de manière très forte. Et finalement, on va lui proposer un emploi et c'est un emploi d'homme de paille. Et puis progressivement, il va s'adapter à la situation et on peut dire qu'il passe du mouton au loup ou de la morale à la corruption. Et il a à la fin un discours face à Pierre Larquet, qui est son ancien collègue dans l'école. Et il va, dans cette situation, vraiment mettre en place une critique forte du monde de l'enseignement ou de la pauvreté. Mais avant d'écouter cette femme du boulon, ce Topaz dans la deuxième version, qui est plus tard, il y a la trilogie marseillaise. Et la trilogie marseillaise, donc c'est Marius, Fanny, César. On peut rappeler qu'en fait, Pagnol n'a tourné que le troisième, César, en 1932. Et Marius a été réalisé par Alexandre Corda et Fanny par Marc Allégret en 1931 et en 1932. Donc, c'est cette histoire connue, dont Marius qui a envie de partir sur les océans, qui fait un enfant à Fanny, qui va être obligé d'épouser Panis, et qui va revenir ensuite dans le troisième, c'est-à-dire César, pour essayer de le récupérer. Donc, cette situation, Marius, Fanny, César est assez connue, donc je ne développe pas. Alors, moins connue, vous avez Regain en 1937, où Fernandel fait un très petit rôle, pas sympathique du tout, il fait un remouleur qui va vendre la femme qu'il a gardée avec lui à Panturne, qui est celui qui est le résident d'un village abandonné et qui va planter du blé. C'est là qu'on parle de Regain. Alors le Schpoons, on a écouté un extrait tout à l'heure. La femme du boulanger. Alors la femme du boulanger, c'est un sommet pour certains analystes. Orson Welles, qui est quand même un grand réalisateur, disait que Rému était le meilleur acteur du monde. Dans ce film-là, En fait, il s'appelle Aimable, il est boulanger, sa femme part avec un berger, il arrête de faire du pain, tout le village part à la recherche de sa femme, et on va la trouver, elle va revenir à la maison. Et là, il y a une scène assez célèbre qui est la suivante. Aimable va être tout à fait gentil avec sa femme qui revient, et par contre, il va insulter la chatte Pomponnette qui revient et qui retrouve Pompon. Donc là, c'est vraiment une sorte d'alternance. Je suis gentil et puis je déteste à travers donc ce chat, cette chatte qui rentre pour se retrouver. Donc voilà, la fin du boulanger, Pompon, Pomponnette.
Pardon.
Pardon de quoi ?
De ce que j'ai fait.
C'est ce que tu as fait qui te le demande.
Tu sais ?
Bien sûr que je le sais. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne m'avais pas dit que tu allais chercher ta mère, alors. Tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Mais, hein? Tu n'as pas eu froid, moi.
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Ça peut me faire. Ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu vas pas me faire une maladie au moins. Viens. Viens, madame. Viens. Viens. Là. Tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer un dîner pour moi. Je ne savais pas que tu es là ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim.
Pardonne pas. Ça me fait mal.
Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci?
Je sais pas.
Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été partie, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là, et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Ouais.
Et celui-là, qui c'est qui l'a fait?
C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le fond du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme s'il était allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange, mange, mange. Tu en prends.
Ah, vé! La voilà! La voilà! Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La Pomponnette? Dis. Garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre Pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de fesse depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre Pompon, elle dirait, il est plus beau. Beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Les Chinois sont tous pareils. Les nègres se ressemblent. C'est pas une raison. Parce que les lions sont plus forts que les lapins.
que les lapines courent après en clignant de l'œil. Et la tendresse dit, qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? Tu crois que ton berger de gouttière se réveillerait la nuit pour te regarder dormir? Dis, tu crois que si tu étais parti, il laisserait refroidir son four s'il avait été boulanger? Et pourtant, si on pense à tout, il est vieux, Pompon. Elle est jeune, elle pouvait être sa fille. Alors, si la nature l'a voulu.
Tais-toi, aimable, tais-toi.
Tais. Regarde là, hein. Elle a eu l'assiette de lait du pauvre Pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Elle avait faim et froid. Bois le lait de Pompon, hein. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore?
Donc la femme du boulanger, avec cette scène assez classique sur le retour du chat et de la femme qui était partie avec le berger. Alors, il y a ensuite la fille du puisatier. La fille du puisatier, où là encore il y a un enfant naturel, Rému et Fernandel creusent des puits et la fille de Rému va avoir un enfant avec quelqu'un d'une plus haute condition et le couple des parents de ce jeune homme vont le mépriser un petit peu. Donc c'est surtout là encore l'accueil de l'enfant, des scènes comiques avec Rému et Fernandel. Alors 1945, un film qui est moins connu qui s'appelle Naïs. Dans Naïs, Fernandel fait un bossu et il va aider un couple dont le père de la fille ne veut pas de mariage. Et il va même finir par le tuer dans une sorte d'accident pour permettre aux amoureux de conserver leur destin favorable. Alors pour Topaz, donc 1951, qui est ce remake du film, je vous ai dit un petit peu de quoi il s'agissait. Et ce qui est vraiment très très immoral ou amoral, c'est la manière dont cet instituteur très très moral, appliquant des règles, etc., devient un homme corrompu et il retrouve face à lui son ancien collègue, comme je vous le disais, auquel il va tenir un discours qui est très 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 cynique.
Parce que j'ai de l'argent. Et tu t'imagines que pour de l'argent?
Mais oui, pauvre enfant que tu es. Ce journal champion de la morale ne voulait que 500 000 francs. Oh, l'argent. Tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre donc les yeux. Regarde la vie. Regarde tes contemporains. L'argent peut tout. Il permet tout. Il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fosse dent, invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit. L'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien? C'est la force qui gouverne le monde. Et ces petits rectangles de papier bruissant, voilà la forme moderne de la force.
Il est heureux que tu aies quitté l'enseignement. Car si tu redevenais professeur de morale...
Sais-tu ce que je dirais à mes élèves? Mes enfants, les proverbes que vous voyez au mur de cette classe correspondaient peut-être jadis à une réalité disparue. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne servent qu'à lancer la foule sur une fausse piste pendant que les malins se partagent la proie. Si bien qu'à notre époque, le mépris des proverbes... C'est le commencement de la fortune. Si les professeurs avaient eu la moindre idée des réalités, voilà ce qu'ils t'auraient enseigné. Et tu ne serais pas maintenant un pauvre bougre.
Oh, mon cher, je suis peut-être bougre, mais je ne suis pas pauvre.
Toi, tu es pauvre au point de ne pas le savoir.
Alors, nous arrivons, pour terminer, à Manon des Sources. Manon des Sources, 1952. C'est donc, comme je vous l'ai dit... un film qui sera tourné et par la suite, on aura quelques années après, la première partie qui sera écrite, Jean des Florettes. dont le sujet, vous l'avez peut-être vu à le film de Claude Berry, c'est Manon des Sources, qui est une jeune femme qui a été élevée par son père Jean de Florette, et Hugolin et le papé ont cimenté une source pour éviter qu'ils puissent profiter du terrain. Donc ils passent leur vie à aller chercher de l'eau, alors qu'ils ont la source à côté. Et beaucoup de personnes dans le village le savent, mais personne ne le dira. Et le tragique de l'histoire, c'est que Jean de Florette est finalement le fils naturel du papé, et qu'il ne saura qu'à la fin, une fois qu'il sera mort. Alors, ces villageois se trouvent face à une source qui est coupée, ils ne savent pas quoi faire. En réalité, c'est Manon qui a coupé la source, mais on ne le sait pas au départ. Donc, on va être à l'église avec un serment du curé, qui va d'ailleurs accueillir au départ des personnes qui ne viennent jamais, en leur disant, mais finalement, vous venez exceptionnellement parce que vous avez besoin de quelque chose, autrement, vous ne venez pas. Donc, le serment du curé dans Manon des Sources. Le début, il dure 15 minutes, donc le début.
Mes enfants, je suis bien content. Oui, bien content de vous voir tous ici, tous réunis dans notre chère petite église. Il y a toute la paroisse. Et je vois même un petit groupe de gens très intelligents, trop peut-être, qui d'habitude passent le temps de la Sainte Messe à la terrasse d'un café. Je ne dirai pas quel café, d'autant plus qu'il y en a qu'un. Et je ne nommerai pas ces personnes, puisque tout le monde les regarde, ce qui devrait les remplir de confusion si l'endurcissement de leur cœur ne les portait pas à rigoler. Enfin, aujourd'hui, ils sont venus, et bien qu'ils soient les bienvenus, et je veux même leur apprendre que la messe d'aujourd'hui, je l'ai dite à leur intention. Donc, je suis très heureux de voir tant de monde, mais d'un autre côté, je suis désolé, navré, furieux, et je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais jeune, mon père était paysan, comme vous, dans un petit hameau près de Sisteron. Nous avions un cousin qui s'appelait Adolphin. Il habitait un autre village, pas très éloigné du nôtre, et pourtant, il ne venait jamais nous voir, ni pour les fêtes, ni pour les naissances, même pas pour les morts. Mais de temps en temps, à peu près une fois par an, j'entendais mon père qui disait « Tiens, voilà l'Adolphin qui s'amène. Il doit avoir besoin de quelque chose. » L'Adolphin montait le sentier, tout habillé des dimanches. Il nous faisait des amitiés, des compliments, et il parlait de la famille à vous mettre les larmes aux yeux. Et puis au moment de partir, quand il avait embrassé tout le monde, il disait « À propos, Bernard, tu n'aurais pas une charrue de reste ? J'ai cassé la mienne sur une souche d'olivier. » Une autre fois, c'était un fagot de sarment pour ses greffes, parce que mon père faisait un vin fameux. Ou alors son cheval avait des coliques, il fallut lui prêter le mulet. Mon père ne refusait jamais, mais je l'ai souvent entendu dire, « L'Adolphin, c'est pas un beau caractère. » Eh bien, mes amis, ce que vous faites aujourd'hui au bon Dieu, c'est le coup de l'Adolphin ? Comment ? Il ne vous voit presque jamais et brusquement vous arrivez tous, les mains jointes, le regard ému, tout estrancinés de foi et de repentir ? Allez, allez, bande d'Adolphin, il ne faut pas vous imaginer que le bon Dieu soit plus naïf que mon pauvre père et qu'il ne vous comprenne pas jusqu'au fin fond de votre petite malice. Il sait très bien, le bon Dieu, qu'il y en a pas mal ici qui ne sont pas venus pour lui offrir un repentir sincère, ou pour prier pour le repos de leur mort, ou pour faire un pas dans la voie de leur salut éternel. Il sait bien que vous êtes là parce que la source ne coule plus. Il y en a qui sont inquiets pour le jardin, d'autres pour la prairie, d'autres pour les cochons, d'autres parce qu'ils ne savent plus quoi mettre dans leur pastis. Et ces prières que vous avez la prétention de lui faire entendre, ce sont des prières pour les haricots, des oraisons pour les tomates, des alléluia pour les topinambours, des hosanna pour les cougourdes. Allez, tout ça, c'est des prières adolphines. Ça ne peut pas monter au ciel, parce que ça n'a pas plus d'ailes qu'un dindon plumé. Maintenant...
Marcel Pagnol, donc, grand créateur, un des plus intéressants dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma du XXe siècle. Ces films restent immortels dans la mesure où ils sont universels. C'est un petit peu ce que je vous disais en commençant l'autre fois, c'est que on est dans un cadre familial, dans un cadre d'une petite communauté, et dans cette petite communauté, il y a des jalousies, il y a des oppositions, il y a aussi des grandes solidarités. Et il a parfaitement décrit ce monde paysan. Je terminerai par une scène qui est dans La femme du boulanger, qui est assez emblématique de la manière dont le monde paysan peut fonctionner. Lorsque la femme du boulanger part avec le berger, on ne sait pas où ils sont allés. Donc le curé et l'instituteur, là aussi j'aurais pu développer cet élément permanent chez Pagnol, l'opposition entre le curé et l'instituteur, ou parfois la complémentarité, ils vont désigner des groupes de deux pour aller partir chercher la femme de Aimable. Alors, il nomme celui-ci, celui-là. À un moment donné, il dit « Voilà, toi, tu vas avec lui. » Il dit « Non, je ne peux pas y aller, je lui ai retiré la parole. » Et on lui demande alors « Mais pourquoi ?» Il répond « Ça remonte à nos grands-parents, ça doit être très très important. » Donc, c'est une illustration de ces oppositions, de ces haines ancestrales, où on ne sait plus par quoi ça a commencé, mais on se déteste passionnément. Et à côté de ça, il y a la solidarité, cette solidarité paysanne que Pagnol a bien décrit aussi. Donc, un monde paysan dans lequel il ne faut pas le réduire, puisqu'en réalité, on a vu qu'il y avait d'autres œuvres qui étaient tout à fait originales ou passionnantes. Il a un sommet, un passage de sa carrière où il est reconnu, c'est-à-dire qu'en 1946, il est élu à l'Académie française. Donc, on sait qu'à l'Académie, il y a parfois des personnes qui ne le méritent pas. Et on peut dire que Marcel Pagnol, lui, l'a fortement mérité. C'était Cinéma, Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Chéliane Amada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur leur application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.